Henri Casson, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre fondateur de la Fraternité Saint-Paul, une petite communauté de prière et de travail qui a choisi de vivre dans les cités. Avec vos frères, vous vivez en HLM à Marseille, une vie que vous avez désirée et que vous avez choisie, l'aboutissement d'un parcours original. Ce parcours, vous le racontez dans un livre, Moine des cités, de Wall Street au quartier nord de Marseille, paru chez Nouvelle Cité. Alors commençons avec vos racines. Quelle est votre histoire? Je crois que vous êtes à la fois français et américain.
Alors je suis né à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Donc déjà je suis né un peu en territoire américain en France. Mais mon père est américain, ma mère est française. J'ai la double nationalité. Mon enfance s'est déroulée à New York, la ville de New York, où mon père était banquier. Et donc après, une bonne partie de ma vie s'est déroulée à Paris. Et ensuite, j'ai pris des décisions qui m'ont conduit sur d'autres chemins, en Haute-Savoie, puis à Marseille.
C'est pour plaire à votre père que vous êtes lancé dans la finance? Vous avez dit que votre père était banquier.
Plaire à mon père, non, peut-être inconsciemment, mais c'est vrai que je suis le seul des quatre enfants, des quatre garçons de mes parents, à avoir repris une carrière bancaire, bon, dans des métiers assez différents de ceux de mon père, parce que je travaillais donc dans les années 80 sur les marchés financiers, j'étais devenu spécialiste des options de change, et donc les salaires étaient assez élevés, et assez rapidement, enfin, à l'âge de 28 ans, je gagnais plus que mon père en fin de carrière, qui lui-même était banquier, mais nous étions dans des secteurs très très spécialisés.
Dites-nous à quoi ressemble la vie d'un Golden Boy. Très concrètement, c'était quoi cette vie? Parce que vous deviez avoir beaucoup d'argent.
Donc à 5, on gérait à peu près 15 milliards de dollars, c'est-à-dire c'est l'équivalent du budget de la Tunisie. Pour autant, c'est pas forcément le salaire qu'on touche à l'arrivée, mais par exemple, les primes mensuelles que je pouvais toucher correspondaient à plus que mon salaire annuel comme professeur à mi-temps aujourd'hui de l'éducation nationale. Donc c'était des chiffres très différents. Le travail lui-même, c'était vraiment... donc on était en contact permanent avec l'ensemble de la planète, puisque ces marchés tournent 24 heures sur 24. Et puis un travail qui se fait pour la plupart en anglais, puisqu'on travaillait avec les places de New York, Londres, mais aussi les places de Tokyo, Hong Kong. Dans une salle, je travaillais à l'époque pour la principale banque de la compagnie financière de Suez, la banque Indo-Suez, qui depuis a été rachetée. Et le travail lui-même était à la fois très technique, c'est-à-dire qu'il s'agissait de gestion de portefeuille sur des devises étrangères, avec des mouvements aussi importants tout au long de la journée, donc un travail assez stressant.
Grisant aussi.
Grisant par certains côtés, je sais que les journalistes à l'époque qui nous interrogeaient très fréquemment, ceux qui connaissaient pas très bien ce milieu-là, nous disaient « alors vous êtes les maîtres du monde, vous pouvez comme ça balancer 100 millions de dollars à l'autre bout de la planète en claquant des doigts ». Moi j'avais un peu de recul par rapport à ça, je disais souvent que les vrais maîtres de la planète c'était les instituteurs, mes parents, enfin les éducateurs qui nous avaient appris que oui c'était oui et non c'était non, parce que ces marchés financiers ne peuvent fonctionner que si la parole donnée est vraiment tenue. Sinon, les marchés ne peuvent pas fonctionner. Donc il y a toute une infrastructure, je dirais, éthique, morale. Ça peut paraître peut-être bizarre à des gens qui sont pas familiers de la finance, peut-être surtout dans les milieux catholiques qui souvent tiennent en suspicion les métiers de la banque. Mais c'est des métiers qui ne peuvent pas fonctionner sans une infrastructure morale extrêmement solide.
Dans votre carrière financière, Henri Casson, est-ce que Dieu avait sa place?
Alors Dieu est entré dans ma vie comme adulte de manière un peu fracassante quand j'avais 20 ans. J'étais à ce moment-là encore étudiant en sciences économiques, je m'apprêtais à entrer à Sciences Po, et c'était l'été 1981. J'étais à l'époque, comme je le dis dans mon livre, le parfait petit consommateur occidental. J'avais tout, j'écoutais la musique à la mode. En plus j'avais une famille unie. J'étais quand même français et américain, deux grandes nations sur le plan, enfin sur des tas de plans.
Vous aviez de l'argent?
De l'argent, je n'avais jamais manqué. Je passais des vacances dans des endroits absolument merveilleux. Et malgré tout, il me manquait quelque chose. J'avais un sentiment de frustration profond. Et j'ai retrouvé la saveur de la vie en faisant cette découverte personnelle de la prière. J'étais tombé sur un livre de Carlo Caretto, un Italien qui était devenu petit frère de l'Évangile, à la suite de Charles de Foucault, et lui avait écrit un livre, Lettres du désert, qui parlait de la prière, non pas à comprendre, mais faire l'expérience de la prière. Et cette expérience de la prière, j'ai fini par la faire dans la chambre, dans ma chambre chez mes parents, dans leur résidence secondaire, dans le Beaujolais. Et je me suis en fait mis à genoux, et ne sachant pas trop quoi dire à Dieu, je lui ai j'ai simplement fait la prière un peu celle de Charles de Foucault, c'est-à-dire si tu existes, bien manifeste-toi à moi. Et Dieu est venu. Alors c'est difficile à expliquer, j'en parle très brièvement dans mon livre, mais j'ai eu cette expérience de paix et de joie profonde qui justement m'a montré par l'expérience qu'il y avait sans doute une réalité invisible à laquelle il s'agissait de communier. Mais après, j'ai tout de suite pris un peu de recul par rapport à ça aussi, en me disant que c'était peut-être des inventions psychologiques, il fallait vérifier si c'était exact ou non, et ça m'a poussé du côté justement religieux, et j'ai eu cette recherche parallèle à mes études, puis à mon travail à la banque, une recherche religieuse où je me suis interrogé sur les différentes traditions, puisque aussi dans ma famille et parmi mes amis, tout le monde n'était pas chrétien. Donc il y avait aussi la question de savoir, bon, mais est-ce que cette expérience spirituelle est vraiment religieuse? Est-ce que Dieu existe? Et de quel Dieu s'agit-il? Il y a tout un chemin que j'explique aussi dans mon livre.
Henri Quinson, en 1989, vous êtes riche, vous travaillez dans le monde de la finance, et soudainement, le 16 octobre, vous décidez de démissionner de votre banque.
Ça peut paraître brutal et un peu fou, et ça, c'est à la fois brutal et fou, il faut le reconnaître aussi. Disons que cette question d'une vocation, puisque j'ai quitté la banque, pas pour le plaisir de quitter la banque, mais dans l'idée qu'il y avait sans doute pour moi nécessité de vérifier une vocation, je ne savais pas encore si c'était une vocation de prêtre, de religieux ou de moine, j'ai fini par rejoindre un monastère, le monastère de Tamiers en Haute-Savoie, un monastère cistercien. Mais cette question d'une vocation, en fait, après cette expérience de prière quand j'avais 20 ans, est venue, disons, à peu près un an après, et j'ai commencé pour la première fois de ma vie à me poser la question, en me disant, peut-être que je ne suis pas fait pour me marier, peut-être pas continuer la carrière bancaire que j'ai entreprise, et donc il a fallu quand même 7 ans pour arriver à cette décision un peu surprenante pour mes proches et mes collègues.
Et racontez-nous comment ça s'est passé.
J'ai présenté ma démission à la banque, mais encore une fois, c'est un moment pour moi qui était intense, parce que un peu fou, hein, mais en même temps qui était mûri depuis un certain nombre d'années, et qui était une prise de risque quand même. Et je crois que c'est important aussi que les chrétiens, et peut-être ceux qui ne sont pas chrétiens, redécouvrent le fait que Dieu n'est pas une assurance vie, au contraire, c'est la vie, et la vie nous bouscule, et donc mon parcours est aussi une vie bousculée. Donc je suis moi-même le premier surpris, et j'ai pas nécessairement tous les éléments pour donner la rationalité, même si je pense qu'il y a une profonde rationalité derrière tout ça.
Alors cette démission, c'était une prise de risque, mais c'était aussi une perte. Vous aviez un salaire, un bon salaire, des responsabilités, une certaine notabilité. Vous perdez ça.
Oui.
Vous choisissez de le perdre.
Oui. Alors forcément, si on fait ce type de choix, soit on est complètement fou et auquel cas le monastère ressemble à une clinique où on est interné, soit au contraire il y a effectivement à travers ce chemin soit l'amour, soit une forme de rationalité, soit les deux. Et dans l'évangile on parle de cette parabole de la perle de grand prix, et on est prêt à tout vendre pour acquérir cette perle. Donc ça veut forcément dire que pour moi à cette époque-là, et c'est toujours le cas aujourd'hui, il y a plus riche, il y a plus beau, il y a plus comblant que simplement le fait d'être très bien rémunéré ou d'avoir, oui, une certaine notoriété. Donc pour moi, j'avais découvert que dans ma vie, Dieu était plus important que ça. Il n'y a pas forcément un conflit. Dans mon livre, j'explique à un moment donné que je suis en vacances en Laponie et que une banque américaine cherche à me recruter, et le directeur de la banque américaine m'appelle. Et je lui explique que je suis en vacances, il me dit qu'il n'y a aucun problème, il me paye l'avion en classe affaires pour aller à Londres dans la journée et revenir en Laponie le soir, et je me retrouve dans un avion avec d'un côté une coupe de champagne et de l'autre mon psautier que j'ai acheté en 1985 à l'abbaye de Lérins. Et je dirais, bon, c'est un peu caricatural, mais à cette époque-là de ma vie, je sens que bon, il va peut-être falloir choisir entre champagne et psautier, même si dans les fêtes, on peut très bien être un croyant et sabler le champagne pour les bonnes occasions. Mais pour moi, c'est un trajet particulier, pour moi, un temps était venu pour faire ce type de choix.
Henri Quinson, entre le champagne et le psautier, vous allez choisir le psautier.
Oui.
Alors, comment a réagi votre patron?
Alors, mon patron était très surpris parce que peu de temps avant, j'avais Je lui avais signalé que j'étais très courtisé par la concurrence, puisque c'est comme ça que ça se passait pour les rémunérations. C'est pas comme dans les grandes bureaucraties où on vous demande que de vieillir. Si on va voir un patron dans une banque dans ce type de métier et qu'on lui dit voilà, la concurrence me propose 2 ou 3 fois plus, qu'est-ce que vous faites? Sous-entendu, si vous ne faites rien, je m'en vais. Donc on venait de m'accorder une généreuse augmentation, de très grosses primes, et donc quelques semaines après, je vais le voir en lui disant que je m'en vais, donc il pensait que c'était pour Mary Lynch à Londres, et je lui dis que non, c'est pour un monastère. Même surprise aussi pour la banque américaine, donc qui m'avait fait des propositions très précises, et je raconte dans le livre que... Bien, ce directeur de Mary Lynch était très étonné que je lui dise que finalement je ne le rejoignais pas et que donc il me dit mais vous êtes allé chez qui, enfin, qui a pu vous proposer plus? Et je lui dis un monastère. Alors là il y a eu un grand blanc dans la conversation et à la fin il m'a dit que c'était la seule concurrence qu'il acceptait.
Et voilà. Vos amis, alors Henri Quinson, vos amis, je suppose que dans le milieu vous aviez quelques bons amis, et puis dans votre entourage, quitter les milieux d'affaires comme ça pour aller dans un monastère au fin fond de la Savoie.
Les réactions sont très diverses, et c'est même très très fascinant de voir ça, c'est-à-dire c'est pas forcément les gens qu'on pensait réagir positivement, négativement, ou de telle ou telle manière qui vont réagir comme ça. J'ai des collègues qui m'ont dit, tu as raison, nous on mène une vie de con, je m'excuse de dire ça à une antenne comme RCF, voilà ce que certains m'ont dit, et je leur ai dit, mais non, en fait, c'est très important, des gens qui on doit échanger des dollars contre des euros, à l'époque l'euro n'existait pas, mais contre des francs ou des Deutsche Mark, donc ce métier de toute façon il est utile, après il peut y avoir des excès, il y a aussi des gens qui abusent de situations, etc., mais fondamentalement les métiers de la banque on en a besoin. D'autres personnes étaient totalement incrédules, ont cru que c'était une blague, et puis d'autres personnes pensaient aussi que c'était un gâchis, parce que ils considéraient que j'avais des qualités et que je devais les employer en ce monde, et que pour eux la vie monastique c'était quand même se retirer du monde.
Et puis il y avait la question du célibat.
Mes amies femmes d'abord qui trouvaient que ça, me connaissant, que ça paraissait un peu difficile que je fasse ce choix, et d'autres qui posaient des questions de fond, c'est-à-dire quand même cette castration volontaire là, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi? Et moi-même, c'est des questions que... Enfin, je suis toujours heureux que les gens posent ces questions, parce que ceux qui ne les posent pas, c'est soit qu'ils se fichent pas mal de mon bien-être à moi, soit qu'ils considèrent que, il y a certaines personnes qui rentrent dans ces catégories de mutants, que ça ne les concerne pas eux. Donc je pense que c'est très important de poser ces questions qui sont justifiées. Donc il y a eu toutes ces réactions, aussi des réactions pas forcément dans le travail, mais par exemple, je pense à un clochard qui était souvent devant ma paroisse à Paris, à Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, et qui, apprenant la nouvelle, m'embrasse et me dit « je suis un ancien séminariste ». Donc des moments, aussi un de mes collègues qui tout d'un coup me demande si je peux déjeuner avec lui et qui m'annonce qu'il est homosexuel. Des réactions très surprenantes pour moi, et c'est là où je me suis rendu compte que à travers ces décisions, le royaume de Dieu aussi émergeait de manière très visible pour moi, c'est-à-dire que j'avais tout d'un coup des frères et des sœurs qui n'étaient pas forcément ceux que je croyais, et qui réagissaient par rapport à une bonne nouvelle qui était finalement une liberté par rapport à tous les déterminismes qui nous entourent, qui font aussi partie de notre monde et qui ne sont pas nécessairement mauvais en eux-mêmes. Tout le monde normalement est destiné à se marier, tout le monde est destiné à essayer de vivre matériellement de la meilleure manière qui soit, mais il y a aussi une réalité plus forte, de laquelle tout le monde s'approche, parce que disons le jour de notre mort physique nous sommes obligés de nous poser ces questions, mais en fait ces réalités invisibles parcourent notre société, et ce type de comportement qui à mes yeux sont soit une profonde aliénation religieuse qui conduit à un comportement stupide, ou alors témoigne d'une grande liberté, puisque je peux dire à mes yeux, en toute vérité, que je n'ai pas couru après l'or, et que je m'en porte très bien, et en même temps, je continue, j'ai toujours travaillé, mais que je travaille avec des revenus plus modestes, et que ça ne m'empêche pas d'être heureux.
Grand témoin, Béatrice Soltner.
Henri Quinson, 1989, c'est une année importante pour vous, puisque vous allez quitter la banque où vous travaillez et vous avez des salaires très confortables, vous nous l'avez expliqué. Avant de partir à l'abbaye de Tamiers, où vous allez séjourner 5 ans, vous avez une vision étonnante, le 24 octobre 1989.
Oui, alors ça c'est très surprenant et je le mets dans mon livre, ce qui constitue un suspense assez intéressant parce qu'on se demande comment ça va se réaliser. Et pour moi c'était très bizarre et je l'ai noté dans mon journal. Je me vois en 1989, effectivement à la veille d'entrer à Tamiers, à Marseille. À l'époque je ne sais d'ailleurs pas écrire correctement le nom de cette ville puisque je l'écris à l'américaine avec un S à la fin alors qu'il n'y en a pas en français. Et je me vois à Marseille entouré d'enfants maghrébins à qui je fais l'école.
Mais c'est une vision, c'est-à-dire ?
Alors, c'est pas une vision extraordinaire, c'est-à-dire que c'est une vision que n'importe qui peut avoir quand on est en train de réfléchir tout haut et que tout d'un coup on s'imagine, on se voit. Mais je me vois à Marseille entouré d'enfants maghrébins à qui je fais l'école. Et ça, je le note dans mon journal, puisqu'à partir de 1989, pour y voir un peu clair dans mes décisions, je commence à tenir un journal que j'ai tenu jusqu'à ce jour et qui constitue un peu la trame de mon livre. Et ce journal donc témoigne de cette vision qui, encore une fois, n'est pas extraordinaire dans sa forme, mais qui, dans son contenu, pour moi, est extraordinaire, puisque je ne connais personne à Marseille, que je n'ai aucun lien particulier avec le monde musulman ou le monde du Maghreb, et que je me vois donc là. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Moi, j'en parle à un moine à ce moment-là à Tamiers, qui me dit que bon, bah, on va voir un petit peu comment cette vision peut informer mes décisions dans les mois qui viennent. Je reste à l'abbaye de Tamiers, mais en même temps, surtout après mon noviciat, quand on me charge de m'occuper de la revue de presse hebdomadaire de la communauté, je suis plongé à nouveau dans l'actualité qui montre tous les problèmes des banlieues, comme on dit, et puis tous les problèmes aussi en Algérie, puisqu'il y a des frères au monastère de Tamiers qui sont partis en Algérie, deux d'entre eux, dont Paul, avec qui j'ai vécu à Tamiers, et qui est parti à Tibérine, donc ces moines qui vont être assassinés en 1996, et Paul quitte Tibérine en me donnant son psautier, son livre de prière, en me disant, avec son petit humour caustique, « ça tombe bien, tu me remplaceras ». Phrase qui m'est revenue après. Mais donc je suis sensibilisé à la montée de l'islamisme et du terrorisme en Algérie.
Et aux banlieues.
Aux banlieues, voilà. Donc ça... Ça entre un petit peu dans le symbolisme, disons, de Marseille, qui est la ville dans laquelle il y a 200 000 musulmans, une communauté juive aussi importante de 80 000 personnes. Et donc cette diversité religieuse, la question de la pauvreté, de l'immigration des étrangers venus d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord en France, toutes ces questions-là apparemment me travaillent et je me rends progressivement compte que cette vision que j'ai eue rejoint en fait des aspirations profondes en moi que mon père Abbé va m'obliger à un moment donné de clarifier.
Alors, ça, c'est, vous gardez ça au fond de votre cœur, cette vision. En même temps, vous rentrez à Tamiers, vous prenez l'habit le 29 juin 1990 et vous vous dites que vous allez rester toute votre vie à Tamiers. Parlez-nous un peu de cette rencontre avec les moines de Tamiers, parce que sacré changement quand même entre la banque et l'abbaye cistercienne très dépouillée.
Oui, alors moi dans ma vie, et ça m'a beaucoup aidé par la suite avec mes voisins à Marseille, mais dans ma vie j'ai vécu des changements qui peuvent paraître spectaculaires et qui le sont. C'est-à-dire, vous passez d'une banque où vous êtes en costume cravate, bien payé, à travailler en anglais avec la planète entière, avec les techniques de change qui viennent d'arriver en Europe, et puis vous vous retrouvez au fond d'une cave à tourner les fromages à l'abbaye de Tamiers, aux confins du massif des Bauges, dans le silence, avec 35 bons hommes qui n'ont pas du tout le parcours que vous avez, et dans le silence. Donc c'est un choc assez important. J'avais même dit une fois à mon abbé que ça avait été un traumatisme pour moi.
Mais difficile à vivre ou plutôt reposant, vous avez eu la confirmation que vous étiez bien à votre place?
Alors, j'ai fait plus de 5 ans à Tamiers dans l'idée, comme vous l'avez bien souligné, d'y rester. Donc c'était pas du tout pour moi une espèce d'université pour faire autre chose après. Donc pour moi ça a été un moment extrêmement important d'approfondissement de la prière et j'aime toujours d'ailleurs beaucoup la vie monastique qui n'est pas prosélyte, et c'est ma pente aussi naturelle, même si je pense que dans l'Église il y a évidemment différentes vocations et différentes aspirations, mais personnellement j'ai jamais été très porté finalement ni à des cours magistraux sur ce qu'est le christianisme, ni non plus à des rencontres où il s'agirait d'aller frapper à la porte des voisins en leur disant qui est Jésus-Christ et en les baptisant dans les 15 jours. Donc c'est pas du tout ma pente naturelle. Et chez les moines, j'aimais bien l'idée qu'il y avait la prière, le travail, donc toujours le travail, et puis l'hospitalité, puisque un monastère comme Tamier accueillait 120 000 visiteurs par an. Et donc ce chemin avec Tamier, pour moi, c'était un chemin de découverte de Dieu à travers la prière, et puis aussi un chemin en communauté avec aussi les difficultés. Alors, est-ce que c'est simplement quelque chose de positif ou est-ce qu'il y a des difficultés? Là, on se retrouve plongé dans le mystère de la croix, c'est-à-dire que il y a un renoncement, ne pas se marier, ça va pas non plus de soi. Le fait d'être transporté dans un environnement très différent, rural en l'occurrence, le silence, même si personnellement j'ai toujours beaucoup apprécié le silence, tout en ayant des facilités, je pense, pour les relations avec les autres, mais l'un ne va pas forcément contre l'autre. Mais cette expérience, cet enracinement dans la prière, une vie assez austère par certains côtés, il y a les deux, c'est-à-dire il y a à la fois ce renoncement, mais en même temps cet approfondissement et cette joie à découvrir le Christ dans l'Esprit Saint qui va nous porter toujours plus loin, mais dans ce mélange à la fois de renoncement, parfois de déchirement, et en même temps cette paix profonde qui est donnée à celui qui cherche en vérité l'amour, hein, Dieu lui-même.
Henri Casson, à Tamier, les moines travaillent, prient, accueillent aussi, il y a une hospitalité. Alors, on se lève assez tôt le matin. Et je crois que vous souffriez justement de ces horaires très matinaux.
Voilà, alors à certaines saisons, on se levait quand même à 3h15 le matin. Donc c'est tôt. Se lever tôt, en fait, en soi, ne me gêne pas. Et j'aime beaucoup l'office de nuit dans la tradition monastique. Et à Marseille aujourd'hui, je me lève tous les matins à 5h15, c'est moins tôt, mais enfin c'est quand même tôt, et on a l'office à 6h, dans le calme de la cité qui pour une bonne partie dort encore. Mais c'était le fait aussi d'avoir un office le soir accompli qui ne me donnait la possibilité que de dormir 7h, c'est-à-dire que les moines cisterciens trappistes, qui ont un mode de vie assez austère à la suite de la réforme de l'abbé de Rancé au XVIIe siècle, donc n'ont que 7h de sommeil, et moi j'ai plutôt besoin de 8h. Alors je peux très bien tenir avec 7h de sommeil pendant un certain temps, mais au bout de plusieurs années, ça finit par fatiguer le bonhomme, et donc je me suis trouvé là confronté à un problème tout à fait précis et pratique, et qui m'a posé la question de savoir si je pouvais continuer dans ces conditions.
Et oui, vous en parlez dans le livre, vous en parlez à Opéra B, la communauté discute pour savoir si on peut vous accorder cette dérogation, c'est ça, pour dormir voilà. 8 heures.
J'étais un méchant syndicaliste qui demandait ses 8 heures de sommeil et qui éventuellement demandait peut-être une réforme plus générale pour la communauté, puisque d'autres frères aussi souffraient de ce manque de sommeil, et que je ne voyais pas dans l'évangile de motif de l'imposer à tout le monde. Mais ça, c'est un débat, évidemment. Moi, j'étais un frère récemment arrivé, et il ne me revenait pas à moi de décider des équilibres de vie de la communauté. Le débat était tranché en ma défaveur, pour le compte, et donc il a fallu que j'en tienne compte, et c'est à partir de cette question du sommeil, qui était un problème, disons, pratique en soi, sans beaucoup d'importance, mais que la question de la suite de ma vocation s'est posée, et là est revenue donc cette vision que j'avais de Marseille, ces questions des banlieues, cette question de la relation avec les musulmans aujourd'hui en France, qui constituent près de 10% de la population française, très concentrée dans certains endroits comme Marseille. Et mon abbé, à ce moment-là, m'a invité à me reposer ces questions et à envisager éventuellement d'aller voir les différentes communautés qui étaient insérées dans ces milieux.
Alors, au bout de 5 ans de vie cistercienne, Henri Casson, vous allez partir à la recherche d'un lieu qui pourrait correspondre à vos aspirations, c'est-à-dire, on l'a entendu, une vie communautaire, de prière et aussi en lien avec la banlieue.
La difficulté pour moi, c'était que j'étais très heureux dans cette vie monastique, et donc je ne souhaitais pas vraiment l'abandonner. Mais je sentais en moi cette nécessité d'aller retrouver, disons, ces populations qui ont la peau un peu plus foncée au sud de la Méditerranée. Je ne saurais pas l'expliquer d'ailleurs, hein, c'est parce qu'on peut très bien avoir une vocation aussi à être proche des souffrants dans les hôpitaux ou des handicapés. Enfin, il y a mille visages, encore une fois, de la souffrance ou des difficultés dans la vie.
Mais ça rejoignait cette fameuse vision dont vous nous avez parlé, et vous aviez ça en toile de fond.
Voilà. Donc là, il y a quand même la construction de quelque chose visiblement fondé sur un désir profond en moi et qui remonte effectivement à cette vision de Marseille et des enfants maghrébins. Et donc, je cherche plusieurs communautés.
Ah bah, vous allez chercher parce que vous allez à la fois chez les Focolari, Fraternité Monastique de Jérusalem, Frères des Écoles Chrétiennes, la Mission Ouvrière. On a l'impression que vous éclusez toutes les communautés de France.
Voilà. Et pour finalement m'entendre dire au terme de ce périple que j'ai une vision tellement précise de ce que je veux faire, que peut-être faut-il fonder une nouvelle communauté. Alors comme je suis tout seul, que c'est déjà difficile de quitter le monastère, et que là pour le compte je suis sans travail, sans statut, donc c'est quand même pas évident à assumer tout ça. Et si en plus on me dit qu'il ne s'agit pas de rejoindre une communauté déjà établie, mais d'en fonder une tout seul, je me dis, bon là c'est vraiment mission impossible. Et à un moment donné, je le raconte dans mon livre, je suis un petit peu perplexe devant tout ça, et j'aboutis en banlieue parisienne et quelqu'un de la mission ouvrière Saint-Pierre-Saint-Paul me dit « Mais le projet dont tu me parles ressemble fort à ce que font deux religieuses à Marseille. » Et mais je me dis « Bon, deux religieuses, moi je cherche une communauté masculine, je vois pas trop ce que je vais faire. » Il me dit « Mais il y a un certain Karim de Brouckère et plusieurs jeunes qui travaillent avec ces religieuses à l'accompagnement scolaire à Marseille, et donc tu pourrais peut-être aller les voir, parce que ce Karim de Brouckère se pose la question d'une vocation religieuse en cité, et voilà. » Et donc je me décide à ce moment-là à faire un petit tour à la fois à Aix-en-Provence, pour voir aussi des moines apostoliques à Aix-en-Provence, communauté de Saint-Jean-de-Malte, et puis aussi ces deux religieuses, mais sans trop y croire, parce que je me dis que c'est précisément pas une communauté masculine. Et puis je suis très séduit par cette fraternité dans le quartier de La Renaude à Marseille, un quartier à deux tiers gitans, avec le reste de la population surtout issue du Maghreb. Je fais la connaissance de Karim de Brouckère. Karim parce que c'est un Marseillais d'origine algérienne, et de Brouckère parce qu'il est adopté par des parents chrétiens dont il partage aujourd'hui la foi, et qui sont eux originaires du Nord, mais qui étaient pieds noirs avant, donc ils connaissent aussi le Maghreb. Et donc Karim est assez impressionné de voir quelqu'un débarquer avec cette intention peut-être de participer à une forme de vie religieuse, et donc décide de me rejoindre. Et donc à deux, l'archevêque de Marseille, qui est Bernard Panafu à cette époque-là, nous demande d'aller dans une autre cité pour une présence chrétienne, et c'est la cité Saint-Paul, d'où le nom de la communauté qu'on finit par fonder, qui s'appelle la Fraternité Saint-Paul.
Henri Quinson, vous êtes aujourd'hui membre de la Fraternité Saint-Paul, que vous avez fondée. Vous vivez dans un appartement HLM avec trois autres frères. Alors, quelle est votre règle de vie? Parce que il n'y a rien à voir entre un appartement et puis tanier. Il a fallu inventer, vous fondiez en plus.
Oui, et c'est très important dans ces cités HLM d'avoir une structure de vie relativement ferme et cohérente qui puisse durer.
Donc une règle de vie.
Une règle de vie, même si cette règle de vie est elle-même, la conséquence d'une expérience que j'ai faite, en l'occurrence à Tamier, pendant quand même près de 6 ans, et donc qui s'est perpétuée donc maintenant depuis plus de 10 ans à Marseille, et également en Algérie, puisque l'un d'entre nous, Jean-Michel, est en Algérie depuis plusieurs années. Mais l'idée est de garder donc le célibat qui est propre à la vie monastique et à la vie religieuse qui en découle. Donc une communauté de célibataires à la base, même s'il y a différents cercles concentriques autour de la communauté, mais une communauté de célibataires, une communauté qui prie, et donc on a gardé une liturgie qui est vraiment la même que celle de Tamier, simplement avec 3 offices par jour au lieu de 7. Et les psaumes, le psautier, on le prend sur 4 semaines au lieu de 2.
Mais comme ça, vous dormez plus.
On dort un peu plus de cette manière-là. Et on a toujours la Lectio Divina, donc la lecture priée des Écritures. On a une fois par semaine une journée de désert qui nous permet aussi de prendre du silence et de la solitude par rapport à une cité qui est peut-être animée et bruyante et qui ne doit pas non plus nous accaparer. Donc ça, c'est l'élément de la prière. Il y a le choix du lieu, comme je disais, qui est très important. Le choix d'habiter dans une cité HLM et qui nous met en contact avec des personnes qui ne connaissent pas l'Église. Et puis également donc l'accueil, C'est-à-dire concrètement, dans nos appartements, on a maintenant trois, mais on a un appartement où les voisins savent qu'il y a toujours un frère toutes les après-midi de l'année. Et donc, à tour de rôle, nous assurons cette porterie. Et donc, cette présence, cette insertion n'est pas comme dans les années 50-60 par le travail, mais vraiment par le lieu d'habitation, en ayant cette présence l'après-midi qui permet aux voisins de venir soit faire des documents administratifs pour des familles qui ne savent pas lire ou écrire. Et puis beaucoup de familles, très rapidement, nous ont demandé d'aider les enfants pour l'école. Et ça, c'est l'entraide, autre pilier, sixième pilier. Et septième pilier, les liens avec la paroisse, puisque nous ne voulons pas être une église parallèle qui se penserait supérieure aux autres. Mais donc, nous participons à l'Eucharistie dominicale avec les autres paroissiens.
Dans votre livre « Moines des cités », Henri Quinson, vous écrivez « Où sont les missionnaires dans les cités immigrées à 10 minutes de nos églises ? Qui va habiter parmi eux ?»
Oui, c'est un peu provocateur. Je raconte l'histoire où je me retrouve à l'église et qu'effectivement il y a un prêche sur les missions, et on parle de la mission en Afrique. On va envoyer des missionnaires en Afrique, en Chine, partout, alors que dans les paroisses françaises, dans une ville comme Marseille, et Marseille n'est pas une exception, il y en a beaucoup d'autres, nous avons des pans entiers de ces villes dans lesquels il n'y a aucune présence d'église. Donc nous sommes rentrés dans une réalité nouvelle où, par exemple à Marseille, avec 200 000 musulmans, notre quartier qui a été construit en 1962, moi je suis né en 1961, ma cité a été construite en 1962, 70% des logements du secteur où nous habitons ont été construits en 15 ans avec les rapatriements d'Algérie en 1962, donc après la guerre d'Algérie, et sont habités donc pour la plupart de familles totalement étrangères à notre tradition religieuse, pour l'immense majorité musulmane. Donc les paroisses sont dans les petits villages autour, mais ne sont pas aucune église au cœur de ces cités. D'où la nécessité d'une présence de moines missionnaires, non pas pour faire du prosélytisme, mais déjà établir des liens humains avec ses voisins.
Oui, c'est quoi votre mission? Parce que vous dites pas faire de prosélytisme, en même temps c'est annoncer Jésus-Christ, c'est une... Vous explicitez clairement qui vous êtes, votre foi. Vous parliez tout à l'heure de cette époque où c'était davantage l'enfouissement. On disait pas forcément qu'on était chrétien, on allait travailler avec les autres. Comment vous vous situez là?
Le cardinal Panafieux a dit que nous étions un enfouissement qui n'était pas camouflage. Et c'est vrai que nous sommes arrivés sur le quartier en portant une croix au cou, discrète, mais bien là. Maintenant, je n'ai plus besoin de la porter parce que tous mes voisins savent que je suis chrétien de confession, et donc j'essaye d'être chrétien de comportement, comme je l'explique dans mon livre, sachant que dans l'évangile, il est indiqué que les chrétiens se reconnaîtront au fait qu'ils s'aiment les uns les autres. Donc il s'agit d'aimer notre prochain, et que notre communauté et la manière dont elle se relie à l'ensemble de nos voisins, notre communauté témoigne d'un visage de Dieu qui est l'amour du prochain. Frère Christophe Le Breton, moine de Tibérine, le plus jeune des moines de Tibérine,
que vous avez connu, qui était à Tamiers,
que j'ai connu, à qui j'ai consacré un livre, disait à la fin de sa vie, juste avant d'être assassiné, en 1995, que lui qui avait toujours voulu être missionnaire était devenu moine, mais moine en Algérie, donc il y a là un décentrement par rapport à ses origines culturelles et sociales, et lui-même disait qu'il découvrait de plus en plus que sa mission était simple, c'était devenir frère. Donc la mission chrétienne, c'est de manifester l'amour de Dieu, ou le trouver d'ailleurs chez nos voisins, puisque eux-mêmes manifestent aussi l'amour de Dieu, de mille manières. Et donc, il s'agit de vivre ensemble dans ce royaume de Dieu, qui est un royaume dans lequel nous sommes tous frères et sœurs. Au-delà même de nos différences sociales, de nos différences culturelles, et même de nos différences confessionnelles, comme il est bien expliqué dans l'Évangile, par exemple avec l'histoire du bon samaritain, qui n'est pas un bon juif, mais qui pourtant aide la personne qui est en difficulté au bord de la route. Et dans Matthieu 25, on explique que dans cette parabole, qu'il y a des gens qui arrivent au ciel et qui disent, ben voilà, nous avons dit Seigneur, Seigneur, ou aujourd'hui on dirait, nous avons porté un t-shirt I love Jesus, et donc il est normal que nous soyons accueillis dans le paradis, et en fait Dieu leur dit, ben non, moi j'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli, j'étais pauvre, vous ne m'avez pas donné à manger, etc. Il y a une liste de 7 choses très concrètes qui relèvent de l'amour fraternel, et à l'inverse, des personnes qui ne connaissaient pas Dieu, qui arrivent au royaume, et qui sont accueillis parce que justement ils ont aimé leurs frères concrètement. Donc nous cherchons, notre mission c'est de manifester l'amour de Dieu ou d'en être témoin, puisque aussi nos voisins peuvent le manifester à leur manière, et vivant cette fraternité universelle, nos voisins peuvent nous poser des questions sur la source de notre propre foi, puisque certains d'entre eux découvrent qu'en fait on pourrait habiter ailleurs et que nous avons décidé d'habiter parmi eux par choix. Et là je raconte dans mon livre beaucoup d'histoires à la fois amusantes et à mon avis stimulantes pour notre réflexion sur cette question de la mission, qui indique justement qu'il y a un chemin de découverte. Un jeune qui au début me parle les yeux fermés parce que je porte une croix. Je lui explique que, contrairement à ce qu'il me dit, le Coran n'interdit pas de pouvoir regarder une croix, mais c'est pas mes débats théologiques ou scripturaires qui vont le convaincre, c'est qu'il vient 6 mois après jouer au Scrabble avec ses amis qui viennent chez nous, donc là les yeux ouverts, et puis un an après il nous dit « vous êtes venu habiter ici par choix pour nous ». Et donc il fait toute une découverte de qui sont les chrétiens.
Henri Quinson, vous qui vivez, priez au jour le jour dans cette cité de Marseille, moine des cités, vous racontez votre itinéraire dans ce livre paru chez Nouvelle Cité. Les amis musulmans viennent vous voir, frappent à la porte, puisque vous êtes majoritairement entouré de personnes de cette religion-là.
Oui, alors la France se caractérise par un paradoxe. C'est que si on regarde les sondages, et ça correspond exactement à notre expérience sur le terrain, si vous interrogez les Français sur le critère qui les définit le plus, et que vous leur proposez par exemple homme ou femme, vos revenus, votre lieu d'habitation, votre degré d'éducation, et votre religion, les Français ou les personnes vivant en France qui vont répondre majoritairement par le critère « c'est notre religion qui nous définit le plus », ce sont les musulmans. C'est-à-dire que les musulmans se définissent beaucoup par leur identité de musulman, leur identité donc religieuse. Pour eux, c'est très important. En même temps, comme les catholiques français, ils vont très très peu sur leur lieu de culte. À vrai dire, les musulmans, selon certains sondages, pratiquent encore moins que les catholiques français, ce qui n'est pas peu dire. Et donc, ils vont très peu à la mosquée, ils vont pas à la prière du vendredi, enfin moins de 10% d'entre eux. Donc, il y a une faible pratique religieuse de ce point de vue-là. En revanche, ils vont se retrouver fréquemment, et là on retrouve cette identité culturelle forte, se retrouver pour les repas familiaux de rupture du jeûne pendant le ramadan. Un peu l'équivalent de notre Noël, où les familles aussi, croyantes ou non, pratiquantes ou non, vont se retrouver parce que c'est une fête familiale dans notre culture depuis des siècles. Donc nous nous efforçons non pas d'avoir des relations privilégiées avec des imams, des responsables religieux, et nous-mêmes nous ne sommes pas responsables d'une communauté religieuse puisque nous ne sommes pas curés d'une paroisse. Mais c'est des liens avec nos voisins, des liens humains à travers des gestes très simples.
Par exemple
L'accompagnement scolaire qui nous a été demandé par les voisins met en contact deux mondes très différents. Nous n'avons pas pu assurer, on a à peu près 80 personnes chez nous, 3 soirs par semaine, et donc on fait venir évidemment des lycéens, des étudiants, des jeunes professionnels, des retraités aussi, quelques-uns, qui sont parfois des blondes aux yeux bleus, qui sont peu présentes dans notre quartier.
Qui habitent les beaux quartiers de Marseille.
Qui habitent les beaux quartiers de Marseille, et donc ces gens-là vont se rencontrer, vont se découvrir, il y a des liens d'amitié qui se créent, la symbolique est très importante, le quartier est visité par des gens qui normalement n'y viendraient pas, puisque notre quartier est un peu une souricière avec simplement une seule route d'entrée, donc n'y viennent que les gens qui habitent là-bas, ou leurs amis, et donc c'est important de voir qu'il y a là des échanges qui se font de manière très concrète entre deux univers qui normalement s'ignorent. Et à partir de là, on voit, et je raconte beaucoup d'exemples dans mon livre, des transformations de représentation du monde extrêmement importantes. Et je raconte une petite anecdote qui est assez significative sur nos visions du monde, et nous avons tous à nous convertir, et là en l'occurrence c'était à moi de me convertir, mais un de mes petits voisins me demande la signification du mot « contraste ». Et comme il est comorien, que sa peau est foncée et moi ma peau est plus claire, je mets mon bras à côté du sien et je lui dis « voilà, il y a un contraste ». Ta peau est noire, ma peau est blanche, c'est ce qu'on appelle un contraste. Et lui me regarde très étonné et me dit, mais ta peau n'est pas blanche, elle est rose, et ma peau n'est pas noire, elle est marron. Et lui était en couleur, moi toujours en noir et blanc, lui en haute définition, à l'heure où on parle en pixels pour la photo et les ordinateurs. lui avait une vision en fait très nuancée et très précise, et moi, bon, peut-être pour les besoins de la pédagogie, j'avais un peu forcé le trait, et donc on voit qu'il y a une place pour le métissage, pour des itinéraires très différents, avec des jeunes qui s'en sortent maintenant assez bien sur le plan social, et qui modifient aussi leur représentation de Dieu, leur représentation de l'autre.
En même temps, vous dites qu'ils s'en sortent, on cite toujours ces jeunes qui traînent, qui dealent dans ces quartiers difficiles, c'est ce qu'on montre.
Alors, il y a les deux, malheureusement, on ne montre pas assez les transformations qui sont positives.
Mais vous êtes témoin, justement, vous, qui habitez ces quartiers-là, de transformation.
Oui, il y a deux semaines, un de mes voisins comoriens revient me voir et me dit, voilà, j'ai été embauché avec un CDI dans la banlieue parisienne, à la Société Générale. Donc voilà un jeune qui a travaillé, qui trouve sa place dans la société française. Un autre de mes voisins a pu faire des études à Euromed, qui est une des grandes écoles commerciales à Marseille. Et bon, un jeune doué, mais qui a su saisir la chance aussi, à qui on a trouvé des bourses privées, parce qu'il y a des difficultés financières aussi quand on avance dans les études supérieures en France. Et donc voilà, pour donner ces deux témoignages, mais j'en ai beaucoup d'autres, hein, de jeunes aussi dont les parents ne parlent pas français, qui ont réussi une maîtrise en lettres et qui deviennent professeurs des écoles. Donc on voit qu'il y a ce qu'on appelle dans les cités les dérouilleurs, ceux qui vont quitter justement leur milieu d'origine et qui sont capables de trouver leur place dans la société française, qui sont donc les prototypes de l'humanité nouvelle que nous voyons progressivement naître dans ces cités, même si, comme disait Gandhi, on parle beaucoup plus de l'arbre qui tombe que de la forêt qui pousse.
Henri Casson, je rappelle que vous vivez en HLM, en plein cœur d'une cité à Marseille. Vous êtes moine avec 4 frères. Vous priez chaque jour, 3 fois par jour. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous priez au cœur de ces lieux qui sont souvent stigmatisés, caricaturés, que sont la banlieue ?
La prière, c'est une expérience vraiment essentielle donc dans mon parcours, mais aussi dans notre vie quotidienne, parce que c'est la prière qui rassemble la communauté, et au-delà de la communauté, cette prière que nous vivons au sein même de la cité, et nos voisins musulmans quelquefois nous disent « Ah, vous étiez 2 minutes en retard ce matin », donc à travers les cloisons, ils sont aussi les témoins et la chambre d'écho de cette prière. Cette prière, c'est aussi la prière des psaumes en particulier, rejoindre à travers la communion spirituelle qui n'est pas nécessairement donc visible nos voisins, c'est aussi donc nous renouveler dans cet amour de Dieu, porter les soucis de nos voisins, nos propres soucis également, ceux de nos amis, de tous ceux aussi qui participent à cette aventure de la fraternité dans notre quartier. Et je pense en particulier cette prière à laquelle s'associe maintenant un certain nombre d'étudiants de notre paroisse qui collaborent avec nous à l'accompagnement scolaire, qui sont venus d'abord pour des raisons caritatives, pour aider des voisins, et qui se sont rendus compte en fait qu'on avait aussi les vêpres après, qui restent pour la prière, qui restent aussi pour le repas. Et donc il y a cette unité profonde qui me paraît très importante dans la vie chrétienne, entre la prière, qui nous fait accoucher de choix très importants pour justement la réalité sociale qui nous entoure, et qui en même temps s'achève aussi par un repas, qui est aussi un moment de joie, mais aussi avec ces étudiants qui nous aident. Je constate que être présent dans ce lieu, c'est renouveler aussi l'Église, puisque souvent ces repas se transforment en forme de catéchèse improvisée, où il y a beaucoup de questions justement sur le sens profond de notre présence, sur le sens profond de la prière qui nous rassemble le matin et le soir. Et donc la prière est totalement ordonnée à la vie. Et donc on retrouve cette idée que Dieu est venu habiter parmi nous et que l'Évangile a aussi à s'incarner dans ces réalités humaines nouvelles.
Vous arrivez à parler de Dieu paisiblement avec vos frères musulmans que vous rencontrez, parce que là encore, il y a un tas de clichés. On dit parfois que les banlieues sont des niches pour fanatiques. C'est de là que démarre tel ou tel courant.
Oui, alors dans notre quartier, je ne voudrais pas généraliser, mais je pense que ça correspond quand même à la situation en France de manière générale. Dans notre quartier, beaucoup de musulmans sont assez hostiles à ce qu'ils appellent les barbus, c'est-à-dire justement l'islam politique radical. et sont encore une fois, comme je l'ai dit, peu enclins à participer à la vie de prière qui est proposée par certains lieux de prière qui peuvent être aussi d'un islam plus traditionnel.
Mais ils prient, eux, chez eux.
Voilà, c'est ça, ils prient. Il prie personnellement, et je raconte beaucoup d'histoires dans mon livre où on voit que les frontières telles qu'on peut se les représenter intellectuellement à partir de nos lectures, personnellement je lis beaucoup sur l'islam, et donc je trouve très important de bien montrer que à la source de la religion chrétienne, à la source de la religion musulmane, il y a bien deux représentations de Dieu distinctes, qui ont certes des points communs, mais qui ont des différences et des différences majeures, donc c'est important d'en être tout à fait conscient et de bien les mesurer, mais après, il y a l'islam et les musulmans. Les musulmans sont des êtres humains comme vous et moi. Ils sont tous dans la théologie catholique, et on voit bien que ça correspond à la réalité habitée par le même Esprit Saint qui nous fait frères. Et donc, je peux très bien voir une voisine, Soraya, qui me dit un beau matin, alors que je porte ma petite croix au cou, ben finalement, nous sommes tous musulmans. Alors, je triture ma croix un peu gênée. Je dis, mais musulmans, c'est-à-dire ben, tous musulmans. Je dis, tu veux dire tous croyants? Je dis, oui, c'est ça, tous croyants. Et on voit que le sens des mots n'est pas forcément le même, et que pour beaucoup de nos voisins musulmans, qui n'ont absolument pas lu le Coran et qui ne vont pas forcément écouter les prêches des imams, qui sont souvent d'ailleurs pas en français, donc inaccessibles, leur religion à eux, c'est une religion très simple dans laquelle ce qui compte, c'est finalement d'être bon. Et donc ils vont témoigner du fait que l'homme de Dieu est celui qui fait le bien autour de lui, et on se retrouve là très proche de l'évangile. Est-ce que c'est l'islam classique, traditionnel? Est-ce que c'est l'islam du Coran? Ça n'est pas à moi de répondre. Moi j'ai affaire à des hommes de chair et de sang.
Et ils vous enseignent qu'est-ce qu'ils vous enseignent?
Je crois que une des grandes richesses de notre quartier, c'est quand même des familles qui pratiquent une forme de partage et d'hospitalité qui pourrait parfois nous réveiller. Je me rappelle, quand j'étais banquier, j'habitais dans le 7e arrondissement de Paris, l'avenue Bosquet, avec ma vue sur la tour Eiffel, un beau quartier, comme on dit, et une de mes voisines du dessus était très âgée, je la voyais souvent partir faire ses courses, un peu chancelante, et un soir je reviens du bureau et je la trouve affalée sur le trottoir avec 5 ou 6 personnes autour, et la conversation des personnes autour, c'est de se dire, mais qui est cette personne? Et quelqu'un dit, ah, je crois que c'est une clocharde. Personne ne la connaissait, elle est morte d'une crise cardiaque au pied de l'immeuble, personne ne la connaissait, personne n'allait faire les courses pour elle. Et bien dans mon quartier, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Quand quelqu'un décède, il y a une quête, les voisins vont faire la quête auprès de tous les voisins, et donc il y a une solidarité, un partage extrêmement important, et qui chez les musulmans se manifeste dans les fêtes religieuses de l'Aïd, par exemple pour la rupture du jeûne du Ramadan, par l'échange de gâteaux, et donc nous avons lancé avec les autres monastères qui sont soucieux du dialogue interreligieux un grand concours, celui qui reçoit le plus de gâteaux pour l'Aïd, car ça c'est un signe concret que nous recevons ce geste de fraternité de nos frères musulmans proches.
C'est une goutte d'eau, votre vie monastique dans la cité de Marseille. Vous êtes peu nombreux, vous êtes 4. En même temps, vous pouvez vous dire parfois, à quoi bon? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Il vous arrive de douter?
Oui, moi je suis quelqu'un qui croit aux questions, c'est-à-dire que l'homme qui ne se pose plus de questions est mort. Donc je me pose des questions et je me mets en cause. Je pense que par exemple notre style de vie pourrait être critiqué pour simplement incarner finalement un christianisme compassionnel dans lequel eh bien nous habitons avec les pauvres, donc nous pouvons avoir bonne conscience, nous voulons montrer par là que nous les aimons, mais est-ce que nous aidons vraiment les gens à s'en sortir? Est-ce qu'il faudrait pas mieux faire de la politique, transformer la politique du logement social, l'école, modifier la fiscalité pour qu'en France les petits revenus aient enfin intérêt à travailler? Toute une série de questions qui sont des questions politiques, qui demanderaient peut-être de l'engagement, peut-être gagner beaucoup d'argent, comme souvent me dit, comme banquier, et l'utiliser à repeindre les façades d'immeubles. En même temps, je ne peux que constater un échec patent de la politique de la ville en France. Il y a une explosion des banlieues en novembre 2005 qui montre que ces problèmes sont toujours devant nous. Et finalement, je suis conduit à me poser la question, est-ce que Jésus tirait beaucoup de chèques, donnait beaucoup d'argent aux gens qu'il rencontrait? Non, Jésus rencontrait tout le monde. Et donc je pense que les chrétiens ont à redécouvrir, et je suis heureux moi-même de faire cette redécouverte, que au cœur de toutes ces questions qui sont des questions politiques, économiques et sociales, qui doivent être traitées aussi par ailleurs sur le plan financier, sur le plan politique, et nous essayons aussi d'informer les politiques quand ils veulent avoir aussi notre opinion sur du terrain, mais que au cœur de ces réalités, en fait, l'évangile qui est cette petite graine, la plus petite des graines, finalement, est-ce qu'elle qu'elle passe pas par ces gestes très humbles de rencontre des gens, une rencontre réelle. Et donc je crois que la notion d'aller habiter avec les personnes qui vivent dans ces quartiers est essentielle. Si Dieu lui-même est venu habiter parmi nous, au lieu de débarquer avec peut-être des dollars ou des euros pour résoudre les problèmes du monde, bon, Dieu lui-même n'a pas fait ça, en tout cas telle est notre tradition dans le christianisme. Donc je pense que la communauté chrétienne aussi a à redécouvrir la réalité toute petite, qui est humiliante d'une certaine manière, parce que je ne fais pas partie d'un monastère fondé en 1132, qui a des tonnes de propriétés foncières, avec même beaucoup de moines, etc. Nous ne possédons rien de tout ça, mais Jésus, crucifié, était abandonné des siens, et pourtant, il a donné la vie. Donc je crois que c'est très important, dans ces moments où on peut se poser des questions, qu'il faut toujours se poser, mais aussi de réaliser que c'est une grâce d'être arrivé à cet évangile-là, qui est un évangile de pauvreté, mais aussi de rayonnement et de vie pour ceux avec qui nous avons la grâce de partager cette recherche.
Henri Quinson, vous repensez parfois à votre vie d'avant, il y a déjà un petit bout de temps, quand vous étiez banquier, quand vous gagniez beaucoup d'argent, est-ce qu'il vous arrive de regretter ?
Certaines personnes qui me posent cette question m'ont fait réfléchir, et je me rappelle de quelqu'un qui m'avait dit « Et alors quand tu vas travailler, puisque je suis professeur à mi-temps, nous travaillons tous à mi-temps, je suis professeur d'anglais à mi-temps, quand tu pars travailler de ta cité HLM à Marseille, est-ce que c'est différent que quand tu partais travailler, quand tu habitais avenue Bosquet et que tu allais, tu traversais le pont de l'Alma pour travailler rue de Courcelles ? Et j'avais jamais réfléchi à cette question, et je me rappelle que quand j'allais travailler, je traversais ce qu'on appelle le Triangle d'Or à Paris, avec les beaux bijoutiers, l'endroit le plus coûteux de Paris, jamais personne ne m'a dit bonjour. Et quand je vais travailler, j'ai toujours multitude d'enfants, de voisins qui me disent « Ah, comment ça va ?» Et donc, voilà un petit peu, si vous voulez, l'image que j'ai, c'est-à-dire que certes, j'ai renoncé à un certain nombre de choses, mais que certainement, j'ai trouvé, grâce à mes voisins, une fraternité visible, concrète, un peu remuante peut-être, mais qui a tendance à m'aider, à me réjouir de mes choix.
Et Dieu, dans tout ça, puisque vous avez évoqué cette rencontre personnelle que vous avez faite dans les années 80, il s'est passé du temps depuis, il y a eu effectivement votre travail dans la banque, l'expérience de tanier, aujourd'hui votre vie de moine dans les cités à Marseille, quelle évolution dans le compagnonnage avec Dieu ?
Oui, parce que c'est une des questions de mon livre, même si elle n'est pas explicite, mais c'est que finalement mon livre, le personnage principal, c'est Dieu. Et d'une certaine manière, j'étais catholique par mon baptême, je suis resté catholique et je dirais plus catholique que jamais. Mais finalement, est-ce que je crois au même Dieu que celui auquel je croyais quand j'avais 18 ans ? Je dirais non. Oui, c'est le même, mais en même temps, j'ai découvert beaucoup de traits nouveaux du visage de Dieu, et surtout il s'est affiné et approfondi, et je dirais qu'aujourd'hui pour moi, Dieu est amour, on l'a vite dit, il y a le mystère de la croix, le fait de vivre du don, mais je dirais que de plus en plus, le Dieu auquel je crois est certainement celui qui, à travers Jésus, a choisi 12 apôtres et a donc structuré une institution qu'on appelle l'Église et qui est tout à fait nécessaire et à laquelle j'appartiens. Mais en même temps, ce Jésus, tout en instituant les 12, allait rencontrer tout le monde, quelle que soit sa confession, quel que soit son état de vie, etc. Et donc je suis encore plus heureux de constater que le royaume de Dieu dépasse largement les frontières de l'Église, et que à travers cette vocation singulière qui est la mienne, je peux expérimenter chaque jour la réalité de ce Dieu qui se rit des frontières, qu'elles soient des frontières ethniques, mais même des frontières confessionnelles, ce qui dans les microcosmes religieux est toujours difficile à accepter, mais que ce Dieu peut conduire un musulman à demander le baptême, ça arrive aussi, et nous sommes évidemment très heureux quand cela arrive, mais en même temps, il y a une foule de personnes qui sont dans cette zone grise où l'appartenance confessionnelle, on ne sait pas exactement laquelle elle est, et j'appartiens moi-même, je pense, à cette foule de l'humanité qui est en chemin et qui ne doit pas se réfugier dans cette prétention illusoire de tout savoir sur Dieu, puisqu'il est tous les jours à découvrir et surtout, comme disait Maurice Zindel, à vivre.
Henri Casson, un grand merci. Pour ceux qui veulent se plonger dans votre histoire, je recommande la lecture de votre livre « Moine des cités », un livre paru chez Nouvelle Cité. Merci à Christophe Morague qui mettait en onde cette émission. Thank you.